Je suis avec Xavier Legrand, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes présent en Suisse pour présenter votre premier long métrage, Jusqu'à la garde, un film que nous avons déjà vu en vision de presse il y a plusieurs semaines et que nous avons pu revoir entre-temps, un film qui donne beaucoup à réfléchir. Ça parle de la violence conjugale à travers l'histoire d'une femme qui décide enfin de quitter son mari, de divorcer pour protéger ses enfants, en particulier le plus jeune des deux, un garçon. Et ce qu'on découvre, c'est que il y a la part, bien sûr, visible dans la société, et surtout la part cachée. Le bourreau, en fait, est souvent très bien vu socialement. Ce film, en fait, est un long métrage, votre premier, mais inspiré d'un cours que vous aviez déjà fait. Comment est né le développement de l'écriture pour faire un long ?
En fait, mon projet de long métrage était déjà là quand je voulais faire le court métrage. C'est-à-dire qu'en fait, mon projet initial était de faire une trilogie, de faire trois courts métrages où on découvrait ce couple à trois temps différents. Donc le premier court-métrage, Avant que de tout perdre, qui dure 30 minutes, c'est le jour où où Myriam, effectivement, prend la décision de partir et d'organiser, finalement, son départ, même on pourrait dire sa fuite. Donc c'est une sorte de film d'action qui durait 30 minutes. Et les deux autres épisodes, qui sont le divorce, la garde et le point final de cette relation, je ne peux pas trop spoiler parce que la fin du film... et quand même, enfin, marche parce qu'il y a une sorte de suspense, donc je ne veux pas trop en dire. Mais du coup, voilà, les deux autres parties me semblaient déséquilibrées dans la trilogie parce qu'il me fallait plus de temps pour développer tout ça et que je trouvais que le deuxième et le troisième volet n'avaient de sens que s'ils étaient reliés ensemble. Donc c'est pour ça que finalement, mon projet a changé, que j'ai fait un long métrage au lieu de faire deux autres courts métrages. Donc voilà, j'ai terminé en fait le projet. Qui initialement étaient trois films, et en fin de compte, c'est un court et un long. Voilà.
Voilà, on a un long métrage d'ailleurs qui est très poignant, au lieu de ce triptyque qui était initialement prévu. Par contre, vous avez conservé vos acteurs du court métrage.
Oui, pour moi, c'était essentiel de garder ce couple, de garder ces acteurs aussi. Et d'ailleurs, j'ai gardé aussi toute l'équipe, technique, tous les chefs de poste, techniques et artistiques. Voilà, pour moi, c'était essentiel puisque quand j'avais conçu mon projet, c'était une trilogie. Je voulais vraiment convoquer une vraie équipe autour de cette trilogie. Donc du coup, oui, il était évident pour moi que je garde les acteurs et tous les autres. Léa Drucker et Denis Ménochet.
Et un protagoniste qui est très impressionnant par son jeu, c'est ce jeune garçon. Comment l'avez-vous trouvé ?
Thomas. Alors Thomas, c'est un des seuls qui n'était pas dans le court-métrage parce qu'il y a eu 4 ans entre les deux films et que Miliane Châtelain, qui jouait dans le court-métrage, avait trop grandi. Donc j'ai dû rechercher un autre jeune homme, Thomas Joria. Et en fait, j'ai trouvé de manière très classique une directrice de casting qui a fait passer des essais à plein d'enfants. Et j'ai découvert Thomas assez tôt, d'ailleurs, dans les premières rencontres. Et j'ai fait tout un processus de travail avec lui assez long avant de me décider vraiment à le prendre. Mais c'est vrai que j'ai eu un premier instinct qui s'est confirmé jusqu'à la fin, parce que c'est un jeune homme, un jeune acteur plein de talent.
Alors, on ne va pas tout déflorer du film, mais c'est quand même une situation qui peut être éprouvante, surtout pour un jeune. Comment vous avez travaillé cet aspect-là avec lui pour pas qu'il soit justement éprouvé, marqué par ce qu'il devait interpréter et ce qu'il devait vivre, surtout?
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que même déjà moi, à l'écriture, je me disais, j'ai écrit un rôle pour un enfant, mais en fin de compte, aucun enfant n'est capable de jouer ça, parce que c'est effectivement... le rôle traverse des épreuves très difficiles, des longs plans séquences, avec peu de dialogue, donc c'est vraiment voilà, un jeu sur la présence et sur une vérité constante. Alors déjà, bien sûr, il fallait trouver l'enfant qui soit capable de ça, qui ait cette dimension, ce charisme et cette intériorité.
Et
cette maturité, bien évidemment. Et en fait, ça a été finalement, alors je dirais pas facile, parce que bien évidemment que c'est quand même, il y a une responsabilité, comment il était absolument important qu'il puisse traverser cette épreuve comme un jeu, parce que jouer, c'est aussi s'amuser. Et moi qui suis acteur, j'y tiens beaucoup. On joue par plaisir, on fait du cinéma par plaisir et pas pour se faire du mal. Donc du coup, j'ai vraiment veillé à ce qu'ils comprennent très bien ce qu'est la réalité et la fiction, ce qu'est jouer et pas jouer. Et donc il y a eu tout un travail voilà, là-dessus. Aussi la relation qu'il a développée avec Denis Ménochet, qui joue le rôle de son père, où en fait, entre chaque prise, ils jouaient ensemble au Uno ou au foot. Et quand on était dans la fiction, justement, ils s'amusaient en fait à voilà, je vais te faire peur. Et Thomas disait, bah, je suis sûr que t'es pas cap. Et puis en fait, finalement, il est tellement talentueux et tellement juste que même dans les scènes les plus éprouvantes, il arrivait à se plonger dedans. Et dès qu'on disait couper, il avait vraiment compris vraiment ce qu'était qu'être un acteur, en fait. Voilà, tout simplement.
Alors, d'après ce que vous dites, je comprends qu'il y a aussi une complicité qui s'est établie entre la Drucker de Minochet. De Minochet, qui est très troublant parce qu'on l'a vu dans des rôles, il fait le gros nounours, un petit peu protecteur, et puis être en même temps très, très inquiétant, ce qui est le cas chez vous. Et c'est peut-être cet aspect-là qui vous a plu dans le choix de cet acteur ?
Oui, c'est effectivement toute l'ambivalence qu'il y a chez lui. Je trouve que c'est un acteur qui est très particulier dans le paysage du cinéma français, en tout cas dans les acteurs qu'on peut avoir, parce qu'il a effectivement une sorte de grande virilité, une grande obscurité, et en même temps une vraie fragilité, et presque même une enfance, en fait. Et c'est ça que je cherchais chez lui, c'était voilà, une possibilité de passer d'un sentiment à l'autre, mais où il y a juste une petite ride de l'œil qui va changer et qui va nous raconter toute l'histoire de cet homme. Donc, donc oui, c'est... Puis il a une capacité émotionnelle et humaine aussi, c'est-à-dire d'apporter l'humanité chez un personnage comme celui-là. Mmh. Il est un des rares à pouvoir le faire, je trouve.
Et justement, ça montre aussi l'ambivalence ou le paradoxe de ces prédateurs et de ces bourreaux. C'est que, par exemple, quand ils sont chez la juge, on entend dire que l'amical des chasseurs le trouve exceptionnellement sympathique et tout à fait de confiance. Ça montre aussi toute l'ambivalence et peut-être aussi la difficulté à comprendre ce qui se passe quand on est extérieur à la situation.
Oui, bien sûr. Après, il faut savoir aussi quand même que ce genre de personnes... moi, j'ai fait énormément d'études avant de rentrer dans l'écriture pour voir un peu détecter ce qu'est un homme violent. Et un homme violent ne naît pas avec le gène de la violence. Ce sont des hommes avant d'être des monstres. Des hommes en douleur, en souffrance. Ça ne justifie bien évidemment pas leur violence. Mais avant d'être violent, il y a une sorte, comment dire, de perversion narcissique. Puisqu'il faut qu'il y ait une emprise auprès de leur victime avant qu'il y ait les coups. Parce que c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire pourquoi elle ne part pas à la première gifle. Mais oui, mais sauf qu'avant cette première gifle, il y a eu toute une emprise et toute une sorte de contamination psychologique.
Un dénigrement aussi de la victime.
Oui, un déni, bien sûr. Ça, c'est autre chose, mais effectivement, il y a aussi le déni. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces pervers narcissiques ont une capacité à endosser un nombre de masques absolument faramineux et sont souvent, effectivement... très appréciés socialement, à leur travail, chez les amis, dans la famille, et qu'effectivement, une fois la porte passée et la serrure fermée, ils peuvent effectivement être beaucoup plus obscurs et beaucoup plus violents et manipulateurs. Donc oui, effectivement, c'était important pour moi de montrer comment ils ont cet art du masque.
Et ce qui est troublant aussi, c'est qu'il est violent physiquement avec sa femme et psychologiquement avec son fils.
Oui, bien sûr. Bah c'est-à-dire que ce sont des hommes qui sont dans le déni de leur violence, qu'ils se victimisent. Et du coup, ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que ce genre de personnes ne supportent pas la séparation, ne supportent pas d'être dépossédées de celles qu'ils ont décidé... qu'elle leur appartenait.
Oui, c'est une possession.
Une possession, une jalousie maladive. Et ils sont prêts à tout, jusqu'à, effectivement, manipuler les enfants pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc et c'est effectivement un cas où, en tout cas, nous, en France, on dit violence conjugale. Et ce qui est un terme un petit peu bizarre, parce que finalement, ça nous induit que la violence, elle est tournée que vers le conjoint. Et que, du coup, les enfants qui se retrouvent dans des situations comme ça, ils ne sont pas que spectateurs. Ils sont aussi violentés et ce sont des victimes souvent oubliées. Donc c'est vraiment, quand je préférerais qu'on dise finalement violence domestique, parce que c'est de la violence dans le foyer, la violence dans la famille en fait. Et c'est pas juste tourné vers le conjoint.
Quand cette femme décide enfin partir, Myriam, est-ce que le déclic vient du fait qu'elle constate que la violence est aussi sur ses enfants ?
Sans doute, y a plein de paramètres. Je pense que aussi parce qu'elle sent que le danger approche de plus en plus, où les scènes de violence, sans doute, ont été de plus en plus fréquentes et de plus en plus terribles. Sans doute aussi parce que les enfants grandissent et que les enfants expriment peut-être aussi la volonté d'arrêter. C'est toujours compliqué. Des femmes qui se retrouvent dans cette situation, il ne faut absolument pas les juger. Et ne pas dire oui, mais enfin, elle ne fait rien. Ou... Non, ce sont des femmes qui sont démolies et qui ont besoin de se reconstruire. Et pour se reconstruire, il faut se réveiller. Il faut se réveiller de cette situation. Et souvent, les femmes sont endormies parce que c'est un moyen de survie. Mmh. Donc, le réveil peut arriver un matin, peut arriver un jour.
Avec un déclic.
Un déclic qui n'est pas forcément expliqué, mais voilà.
Et ce qu'on comprend à travers votre film, Xavier Legrand, c'est la difficulté aussi économique, parce qu'elle va voir son patron, on la voit traverser cette scène qui est en temps réel, où elle traverse le supermarché, et on comprend qu'il y a une difficulté aussi à franchir le cap, parce qu'il y a le matériel, l'économique.
Alors là, vous parlez du court-métrage.
Oui,
oui bien sûr, il y a effectivement, il faut partir, ça ne se fait pas en deux minutes, c'est des décisions extrêmement importantes, ça organiser une vie et organiser une nouvelle vie. Effectivement, il y a toutes les contraintes économiques, sociales, l'école des enfants, la géographie, comment faire, où vivre pour être en sécurité. Donc tout ça, ce sont bien sûr des montagnes à surmonter.
Pour l'administratif prend du temps aussi.
Oui, bien sûr.
Et dans votre long métrage Jusqu'à la garde, le film s'ouvre sur une longue séquence, je crois une vingtaine de minutes. Mmh. On est chez la juge et en fait, on écoute les avocats respectifs. Et vous faites des chants contre chants, c'est anxiogène pour le public. Enfin, moi, je l'ai vécu comme tel, parce qu'on sent une tension monter, et en même temps, on reste spectateur, on attend de savoir.
Oui, oui, oui. En fait, c'était intéressant aussi de traiter cette scène en temps réel. C'est vrai que les juges aux affaires familiales ont une vingtaine de minutes pour trancher, décider et organiser la vie de ces gens et des enfants quand il y en a. Et moi, il était intéressant de pouvoir, en fin de compte, favoriser la pensée du spectateur, c'est-à-dire de pouvoir recueillir tous les arguments. Et donc, du coup, effectivement, il y a tout un protocole qui est, quand il y a audition de l'enfant, on commence par la lecture de cette audition, puis on écoute un avocat, et puis l'autre. Et ensuite, on fait les débats et on interroge les parents. Et du coup, cinématographiquement, j'ai construit la scène justement pour que nous, en tant que spectateurs, on puisse vraiment être dans chaque pensée les unes après les autres, pour pouvoir être notre propre arbitre, pour pouvoir aussi être en position de juge et pouvoir aussi justement maintenir en haleine et ne pas tout livrer dès le départ, parce que c'est un pari de cinéma, le fait de faire une scène de 20 minutes, une scène prétoire où il y a cinq personnages autour d'une table qui ne font que discuter. Et c'est ça qui était intéressant aussi.
Mmh. Est-ce que pour faire cette scène, vous avez assisté à des auditions, justement, avec des juges?
Oui, bien sûr. Il était important pour moi de voir comment ça se produisait, quels étaient les vocabulaires, les protocoles, l'humeur aussi, l'ambiance dans ce genre de situation. Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre une juge aux affaires familiales pendant des audiences de conciliation qu'elle pouvait faire pendant plusieurs jours, comme ça, où elle traitait effectivement une trentaine de dossiers dans la journée.
Mmh. Et tout à l'heure, au début d'interview, on a parlé du travail avec Denis, avec Léa Drucker. Elle ne force pas le jeu, hein. C'est dans le regard, c'est dans un geste, elle se passe la main dans les cheveux. Enfin, tout est très ténu, très subtil. En même temps, ça dit beaucoup.
Oui, oui, pour moi c'était important, justement, en plus, en tout cas dans cette première scène, puisqu'on en parle, c'est une sorte de jeu aussi qu'ils ont, parce que c'est très compliqué, ce sont des gens qui se retrouvent en fait fouillés dans leur intimité, dans
des
dossiers mis à nu, et donc du coup, il y a une barrière, il y a un masque, une protection, et il était intéressant pour moi de garder cette ambiguïté, de vraiment les mettre en état de fragilité et en état aussi de cachotterie, parce qu'il y a des choses forcément, il y a des secrets. Il y a des secrets du couple qui ne sont surtout pas entendables et avouables. Donc il fallait travailler là-dessus, oui, sur cette ambiguïté où on se dit elle est peut-être fermée, mais en même temps, parce qu'elle ne regarde jamais son mari, mais en même temps, ça peut être aussi parce qu'elle le craint. Et c'est ça qui est intéressant.
Et vous, en tant qu'acteur, avant d'être passé derrière la caméra, est-ce que vous avez une façon différente de travailler par rapport à ces différentes casquettes avec vos comédiens?
Je ne sais pas si j'ai une façon différente, mais c'est vrai que j'ai ma façon à moi. Alors, Moi, je sais que je n'y a pas, j'ai pas une méthode dans le sens où il y a autant de méthodes qu'il y a d'acteurs. Chacun travaille à leur façon et moi, mon rôle est de m'adapter à comment chacun travaille. En revanche, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, et ça aussi je le fais en tant qu'acteur, c'est que je vais me nourrir beaucoup en amont des répétitions du travail, de plein de choses, de documentaires, de films, de livres. Je vais essayer aussi ensuite de dépouiller un peu psychologiquement le personnage. Mais après, quand on est en jeu ou en répétition, et moi c'est ce que je faisais au moment où on tournait, je ne voulais absolument pas parler de psychologie, et juste être dans l'action, dans le rythme, dans le silence plus long, plus court, chuchote plutôt la phrase, arrête de respirer. Enfin, voilà, des choses très techniques qui évacuent effectivement toute tendance à vouloir donner un sens psychologique à une phrase. Et que c'est mieux d'être comme ça dans l'action et dans l'économie de tout ça.
Et en tant que réalisateur, est-ce que vous êtes à l'écoute des suggestions de vos comédiens ?
Oui, bien sûr, je suis ouvert aux propositions. Certains peuvent dire, écoute, je sens plus ça comme ça. Et du coup, moi, je garde la proposition ou la proposition ne me convainc pas. On essaie de trouver autre chose. Mais bien sûr, c'est l'acteur qui joue, c'est lui qui a raison, c'est lui qui en sait plus que moi sur le personnage, finalement, puisque c'est lui. Donc il est, je pense qu'il faut laisser les acteurs, comment dire, créer. Ce sont des créateurs. Donc.
Alors Xavier Legrand, Jusqu'à la Garde a été présenté dans plusieurs festivals. On pense à Venise, Toronto, Saint-Sébastien, Saint-Jean-de-Luz. Vous avez raflé plusieurs prix. C'est une consécration avec un premier long métrage. Mais on imagine que puisque ce sont des pays très différents, la perception, l'accueil du film a été aussi différente selon les cultures.
Oui, alors il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quand même une universalité avec le thème et que bien évidemment tout le monde est touché parce qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de milieu social, il n'y a pas de pays qui est plus ou moins touché par ce phénomène, donc il y a vraiment une sorte de rassemblement. Après en revanche, oui, il peut y avoir des réactions un peu différentes. Je me suis aperçu qu'au Canada... eux, ils ne comprennent pas qu'un enfant puisse se retrouver dans cette situation, puisque eux sont plus, en tout cas, ont plus de moyens pour faire intervenir, voilà, des médiateurs, des psychologues, et qui sont beaucoup plus attentifs à ce que la vie de l'enfant soit, comme on dit, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que les décisions soient vraiment dans l'intérêt supérieur. Alors qu'en France, on peut sans doute quelquefois, je ne reproche pas aux juges parce que je pense qu'ils essaient tous de faire bien leur travail et que c'est très compliqué, mais que quelquefois l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas forcément... Il est dit qu'il est au centre des décisions, mais c'est quelquefois pas le cas. Voilà.
Puis on imagine qu'en Espagne, parce qu'encore l'année passée, il y a eu des manifestations, entre autres à Madrid, sur les violences conjugales et domestiques. On imagine qu'en Espagne, ça reste encore très tabou.
Ça reste très tabou et en même temps, ça reste tabou dans le sens où le phénomène est très répandu. Mais en revanche, c'est un des premiers pays à avoir enclenché des mises en pratique sur le téléphone grande alerte. C'est eux qui ont vraiment mis en priorité dans le gouvernement justement ce phénomène de violence faite aux femmes et de violence domestique. Donc c'est un pays qui bouge, qui en tout cas se manifeste contre, même si effectivement les chiffres sont aussi effrayants, mais je pense que c'est un pays qui est un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme. Donc ça, il faut le noter quand même.
Alors, pour revenir à ce phénomène qu'on maintenant catalogue de pervers narcissique avec la violence, c'est très documenté. Il y a eu les livres d'Yvonne Poncet-Bonisol. Mais paradoxalement, ici, quand je me suis renseignée pour faire une interview des personnes, des associations, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que ça reste tabou quand même d'en parler ? Je voulais associer ça à votre interview.
Je ne sais pas si ça reste tabou d'en parler. Je pense que c'est un terme qui est un peu obscur, qui, du coup, moi, je sais qu'en France, en tout cas, la notion de pervers narcissique, pour eux, c'est tellement impossible de le démontrer que ce n'est même plus... On peut nommer un pervers narcissique, et finalement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça doit prendre un poids dans une décision puisqu'il n'y a aucune preuve de ces perversions narcissiques.
Puisqu'ils ont plusieurs facettes.
Parce qu'ils ont plusieurs facettes et que c'est complètement indétectable. Donc je pense qu'il y a, encore une grande difficulté à ce que ce soit reconnu par la justice. Et donc j'imagine que c'est un terrain un peu houleux et un peu fragile.
Ouais, ouais. Alors on doit vous quitter à regret, Xavier Legrand. Rapidement, des projets où vous êtes encore marqué par cette expérience jusqu'à la garde?
Non, moi je continue à présenter le film, bien sûr, c'est important de pouvoir le présenter.
D'où votre présence ici en Suisse.
D'où ma présence ici en Suisse. Mais non, je suis déjà passé, on va dire, à autre chose. Je suis en écriture d'un autre long métrage et je continue à jouer. Là, j'ai joué jusqu'à samedi soir, j'ai joué au théâtre en France.
Donc, où ça?
J'ai joué à Amiens, c'était à la Comédie de Picardie. Voilà.
Et quelle.
Alors, c'est Mademoiselle Julie de Strindberg.
Magnifique.
Avec Anna Mouglalis.
Voilà. Magnifique aussi. Ouais. Alors merci pour ce bel entretien, Xavier Legrand. On se réjouit de voir le second long métrage.
Merci beaucoup.
Merci.